Chronique du Pays Toulousain. Une émission proposée par les Toulousains de Toulouse avec Aline Thomazin et Sébastien Pénary.
Bonjour chers auditeurs, une nouvelle chronique du Pays Toulousain en compagnie d'Aline Thomazin.
Bonjour Sébastien.
Bonjour Guillaume Debat.
Bonjour.
Maître de conférence à Toulouse-Jean Jaurès, qui travaillait sur les sensibilités, la justice, les répressions, et toute l'action judiciaire sur la fin de l'Ancien Régime, la Révolution du XIXe siècle. Alors, nous avons évoqué avec vous le bourreau la semaine dernière. Et aujourd'hui, nous allons rester au temps merveilleux de la marine à voile et des lampes à huile. Et nous allons évoquer quelque chose né dans l'esprit des Lumières et que la Terre entière nous a peut-être envié, vous allez nous le dire. Je parle de ce qu'on a appelé le rasoir national, c'est-à-dire la guillotine.
Absolument.
Elle-même.
Bois de justice.
Bois de justice. Donc une invention du docteur Guillotin.
Alors oui et non. Et plus donc que oui d'ailleurs, ce pauvre docteur
est-ce,
Guillotin.
Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel?
Non, Guillotin n'a pas inventé la guillotine. Alors en réalité, Guillotin est un homme des Lumières, c'est un médecin, qui est très intéressé par la réforme de la justice et il veut en finir avec les peines telles qu'elles étaient appliquées sous l'Ancien Régime. Et donc à plusieurs reprises, en novembre, puis en décembre 1789 et enfin en janvier 1790, il prend la parole à l'Assemblée nationale pour proposer un très vaste projet de réforme des peines. Et dedans, il y met un article sur une réforme de la peine de mort. Donc, il propose de généraliser la décapitation. Et puis, comme c'est un médecin très influencé par les idées des Lumières et l'importance des machines et de la mécanique dans les idées des Lumières, eh bien, il préconise qu'on pourrait réaliser cette décapitation d'une manière mécanique. Donc, ça fait beaucoup rire les députés. Mais en réalité, ils ne débattent pas du tout de cette question-là. Alors, on débat de toute une partie du projet de Guillotin, mais vraiment, la question sur la réalisation pratique de la peine de mort, elle est évacuée.
Est-ce qu'on sait que si dans les cahiers de doléances, il y avait des revendications à ce sujet, sur la peine de mort, sur ou peut-être l'adoucissement des méthodes, des peines ou,
Oui, la souffrance finalement voilà. des victimes ouais. du bourreau.
Oui, absolument. Il y a un vaste, une adhésion relativement importante au sein de la société pour un adoucissement des peines. On le trouve dans les cahiers de doléances, on le trouve chez les juristes et les philosophes de l'époque, avec une application très utilitariste, c'est-à-dire que les peines sont utiles. Enfin, sont efficaces si elles sont utiles. Et donc, les souffrances qui étaient infligées aux condamnés sous l'Ancien Régime ne sont pas considérées comme très utiles. Et donc, on se dit que ce n'est pas particulièrement efficace. Ça ne veut pas dire qu'on remet en cause la peine de mort. Il y a Beccaria,
notamment. Mais les conditions, finalement, de la mise à mort.
Absolument.
C'est ça. Voilà.
Et Guillotin, lui-même, donc, qui est vraiment pénétré de toutes ces idées, donc, il fait sa proposition. Et il se trouve que Guillotin n'est pas très apprécié par une partie de la presse royaliste.
Ah.
Et pour se moquer de lui, la presse royaliste invente une... Donc, c'est dans le numéro de l'Acte des Apôtres, enfin les Actes des Apôtres, selon de ce journal, invente une chanson pour se moquer de sa proposition. Et c'est dans cette chanson, en décembre 1789, qu'est utilisé pour la première fois le mot guillotine, parce qu'il faut une rime à machine, et donc le journaliste a l'idée de féminiser le nom du docteur Guillotin. Mais la machine, elle, n'est inventée qu'en 1792. Ce qui est très étonnant, c'est que le mot précède de près de 2 ans la machine.
Ah oui,
le mot précède
ça,
vraiment
curieux.
La chose.
La guillotine est très attachée à la Révolution.
Oui, elle est très attachée à la Révolution parce qu'elle est vraiment l'incarnation d'une partie des volontés réformatrices de la Révolution. Alors moi, j'essaie aussi parfois de nuancer ça parce que, pour ne pas mélanger décapitation et guillotine, je m'explique, la décapitation est adoptée en 1791 dans le cadre d'un vaste projet donc, de réforme des lois pénales. Là, on débat enfin des idées qu'avait émis Guillotin, mais Guillotin n'est plus député à ce moment-là, donc il ne prend pas part au débat. Et en 1791, on adopte la décapitation parce que d'abord, c'était l'ancien mode utilisé pour exécuter les nobles.
Oui.
Donc, on généralise par le haut l'exécution, une volonté d'égaliser l'exécution et on utilise ce qui était le moins infamant, donc ce qui était réservé à la noblesse.
La séparation par la hache.
Alors, on ne débat pas des modalités pratiques.
D'accord.
C'est uniquement théorique.
Oui.
On choisit aussi la décapitation parce qu'on pense que c'est la peine de mort qui fait le moins souffrir le condamné parce qu'elle est instantanée. La pendaison n'est pas instantanée à ce moment-là. Et troisième raison, qui est avancée par des députés plutôt royalistes, au cours des émeutes populaires de l'été 1789, il y a eu des pendaisons, qu'on appelle la justice à la lanterne. Et donc, il y a l'idée que si on choisissait la pendaison, eh bien, on pourrait légitimer une violence utilisée par la rue. Et donc, pour toutes ces raisons-là, on choisit la décapitation. Mais la guillotine, elle est choisie qu'en 1789. 1792, parce qu'en 1791, les députés ne sont pas du tout intéressés aux modalités pratiques. Et ce n'est qu'en 1792 que le bourreau de Paris, Sanson et le ministre de la Justice, sollicitent l'Assemblée parce qu'ils ont un problème. Ben, en fait, on ne peut pas exécuter en l'état comme avant avec cette décapitation, et donc il faut trouver une manière. Et l'Assemblée confie au département de la Seine le soin de trouver une manière de résoudre le problème et de véritablement réaliser les exécutions. Et c'est le département de Paris qui va solliciter un chirurgien qui s'appelle Antoine Louis, et c'est lui qui va imaginer une machine pour couper la tête. Donc en fait, les députés sont très peu intéressés finalement à cette question. Ils ont délégué aux administrations locales et aux département de la Seine, donc c'est-à-dire Paris en particulier.
J'imagine qu'ensuite, une fois les premiers essais, c'est épouvantable, mais c'est ça qui se passe, les premiers essais concluants, il y a une réglementation ou une loi qui est prise pour généraliser l'usage et dans l'ensemble du territoire.
Et alors, ou pour améliorer le système, parce que ça n'a pas dû être performant dès les premières fois.
Alors, ce chirurgien, c'est le docteur Antoine Louis, bon, il est secrétaire de l'Académie royale de chirurgie. C'est une personne connue en France, en tout cas dans les milieux. La machine qu'il imagine, elle est inspirée de modèles de machines à décapiter qui étaient en utilisation, par exemple, en Écosse, qui s'appelle la Maiden, au XVIIe siècle. Donc, il n'invente pas du tout sa machine à partir de rien. Et une fois qu'il a inventé qu'il a dessiné les plans de la machine, reste à la faire construire. Et là, l'administration du département de la Seine, qui veut une machine très vite, puisqu'il y a un condamné qui attend son exécution, ne veut pourtant pas payer trop cher. Et donc, elle va choisir l'artisan qui lui propose le devis le plus faible. Et donc, c'est un fabricant de clavecin, c'est l'ancêtre du piano, un Allemand installé à Paris qui s'appelle Tobias Schmidt, qui remporte le devis pour la première machine. Donc, la guillotine est une machine construite dans l'urgence par une administration qui ne veut pas que ça lui coûte trop cher. On le teste en effet dans la cour de l'hôpital Bicêtre. Guillotin a peut-être assisté, c'est pas sûr, a peut-être assisté à ses essais, et la machine donne raison, et donc elle est utilisée pour la première fois en avril 92. Et ensuite, une fois qu'elle est validée, que son utilisation est validée, elle est diffusée dans l'ensemble du territoire, mais Tobias Schmidt est un peu gourmand, et donc il y a un conflit entre l'administration et Tobias Schmidt pour savoir s'il a le monopole ou pas de la machine. Ce qui fait que dans plusieurs départements, ils ont construit leur propre machine, et c'est pas Tobias Schmidt qui a construit la machine. Il a construit la majorité des machines, mais il n'a pas construit toutes les machines.
Ah oui. Mais enfin, c'est lui qui a mis au point, finalement, enfin, qui a matérialisé le projet, finalement.
Absolument. Mais voilà, la machine étant construite de manière très rapide, assez rapidement, elle présente des soucis, notamment du point de vue de la qualité des matériaux. Et très rapidement, à Versailles, il y a une exécution qui échoue. Hein, la lame ne tombe pas assez vite pour trancher la tête du premier coup. Et donc, la machine, elle est ensuite améliorée un petit peu. On baisse la taille des montants. On remplace les gouttières dans lesquelles glisse la lame qui était faite en bois. On les fait en fer, etc. etc. Donc, la machine connaît quelques améliorations. Mais qui sont quand même relativement limités au modèle parisien. C'est-à-dire après, ailleurs en France, on reste quand même sur un des premiers modèles.
Et comment ces exécutions se déroulaient ? Alors, parce que sous l'Ancien Régime, beaucoup d'exécutions étaient publiques. Donc, comme vous disiez tout à l'heure, c'était de la pendaison ou le coup de hache pour les nobles. Et avec la guillotine, on va rester sur des exécutions publiques. Hein. Il faut que la peine soit démonstrative et qu'on voit les conséquences de la faute.
Alors, on utilise l'épée, souvent, d'ailleurs, sous l'Ancien Régime, une épée très large. Oui, alors ça, par contre, les révolutionnaires ne sont absolument pas revenus sur le caractère public des exécutions, parce que là, ça remplit la même fonction que sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire qu'on est persuadé que la peine de mort est édificatrice.
Ouais.
Et donc, pour être
exemple.
Exactement. Et pour être exemplaire, il faut qu'elle soit publique. Ce qui fait que la peine de mort est extrêmement théâtralisée. Hein. La guillotine est juchée sur un échafaud qui peut faire entre 2,50 m et 3 m de haut. Donc, l'appareil de mort est extrêmement imposant. La ritualisation se voit aussi parce qu'on choisit d'installer la guillotine sur des places publiques, souvent des lieux très fréquentés, parfois les lieux qui étaient déjà utilisés sous l'Ancien Régime. Les exécutions, alors pendant la Révolution, notamment les exécutions d'opposants politiques, de contre-révolutionnaires, se fait avec des gens qui sont précédés par la garde nationale. Donc il y a une théâtralisation. À Toulouse, il existe un tambour-major de la guillotine, c'est-à-dire quelqu'un qui est chargé de battre du tambour pour prévenir que le cortège du condamné, donc de sa prison jusqu'au lieu d'exécution, passe. Donc il y a une véritable théâtralisation de l'exécution. C'est un vrai rituel, l'exécution.
Et d'ailleurs, il y a un public.
Alors, il y a un public qui est souvent très nombreux. C'est très difficile de quantifier ce public. On a des chiffres à Paris, par exemple, mais on sait qu'à Paris, les exécutions sont extrêmement, extrêmement courues. Il y a beaucoup, beaucoup de monde.
Est-ce que c'est pour tout le monde ? J'imagine qu'il y a quand même... des têtes d'affiche, si je puis dire,
oui, oui.
Sans faire un très mauvais jeu de mots. Mais il y a des personnes illustres et puis il y a des personnes moins connues. Est-ce que c'est vraiment la décapitation en elle-même qui attire, ou est-ce qu'il y a une valeur ajoutée pour la personnalité du malheureux ?
Alors, c'est difficile à dire, mais ce qui est sûr, en tout cas, c'est que vous avez raison, à Paris, les exécutions qui attirent le plus de monde, ce sont les exécutions de personnes connues, Hébert, oui. Danton notamment. L'historien Jean-Clément Martin a montré qu'au cours de l'été 1794, donc au pic de la terreur, il y a une nausée de la guillotine, et qui se voit sans doute parce que certaines exécutions attirent un peu moins. Mais les exécutions de personnes très connues, de figures majeures...
Oui, continue de faire recette.
Oui, absolument. Oui.
Et en quelques secondes, sur le cadre toulousain, elle arrive quand à Toulouse, à guillotine, et elle est installée où, et est-ce que les exécutions aussi sont publiques, évidemment ?
Alors, c'est totalement public aussi à Toulouse. La guillotine arrive en septembre 1792. Elle est installée sur un lieu qui n'était pas un lieu d'exécution sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire la place de la Liberté, c'est la place du Capitole actuel. Et suite à une exécution ratée, en fait, au printemps 1794, hein, un jeune homme est guillotiné, il faut remonter deux fois la lame, eh bien, elle est déplacée un peu à l'écart, près des une très ancienne muraille sur un espace qui est appelé Place de la Révolution et qui correspond aujourd'hui à peu près à la place Wilson. Mais on n'était pas loin en fait des portes et enfin, des faubourgs de
oui,
la ville
de la porte
en fait, à ce
Villeneuve.
Moment-là.
Oui,
exactement.
Oui.
Et c'est à partir de quand que les exécutions deviennent privées, sont rapatriées à l'intérieur de la prison et...
Ça, c'est au 19e siècle. Ouais. Voilà. Et la dernière on commence d'abord par supprimer l'échafaud.
Oui.
Et ensuite, en 1939, hein, c'est la dernière exécution publique en France. À partir
d'accord.
de là, les exécutés sont mis à mort dans la cour des prisons.
Oui, oui.
Et Toulouse, c'est donc à la prison Saint-Michel que se faisaient les exécutions capitales, les dernières.
Oui, absolument.
Ouais. Donc, on fait descendre les bois de justice où ils sont sur place. Est-ce que la guillotine, chaque département a sa guillotine ?
Ah oui.
Chaque département
est censé avoir sa guillotine. C'est pas toujours le cas, mais c'est en théorie.
Bien, voilà un sujet bien difficile, mais en même temps. Bon, c'est paradoxal, mais le public, c'est un petit peu, finalement, désacraliser la mort aussi. Enfin, il y a tout, il y a beaucoup de choses qui témoignent de l'intérêt public d'assister à une exécution. Merci beaucoup
Merci
pour
à
cette
vous.
Évocation.
Merci beaucoup. Très
intéressante.
Et puis, je rappelle qu'on peut vous lire dans la collection Cette année-là aux éditions Midi-Pyrénéennes au sujet de l'exécution de Madame de Cassan en 1794. Voilà. Bonne semaine.